Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Bah, on s'était manqué, hein, forcément. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu.
Eh ben oui.
C'est pas raisonnable tout ça. Il est temps qu'on se retrouve. Tout va bien?
Ça va, Sébastien.
Jean-Pierre Foultier pour nous accompagner et parler d'Europe. Évidemment, comme chaque semaine, on repart sur une nouvelle série, hein, visiblement, de ces chroniques culturelles de l'Europe que nous entamons. Et je crois que le sujet que vous avez choisi fait d'ailleurs partie un peu des fondamentaux de cette culture européenne.
Oui, puisqu'il s'agit des langues de l'Europe, une Europe géographique, et l'on peut dire la même chose pour l'Union européenne, qui n'a pas de langue commune. Il y a bien eu des tentatives et nous en reparlerons. La langue est en effet le premier élément de cohésion d'un peuple, bien que, nous le verrons, des nations se sont aussi formées sur le multilinguisme. L'Union européenne se proclame unie dans la diversité, c'est sa devise, ce qui fait qu'elle intègre très bien dans sa population comme dans ses institutions cette pratique d'une diversité de langues. Mais je souhaiterais aborder cette première chronique par un retour aux sources, en quelque sorte, c'est-à-dire aux premières langues parlées et écrites sur le sol d'une Europe qui n'est, faut-il le rappeler, géographiquement parlant, que la partie occidentale de l'immense continent eurasiatique. Et la souche originelle de la plupart de nos langues actuelles serait justement à cheval sur l'Europe et l'Asie, ce qui fait que l'on désigne ces dernières sous le terme générique de langues indo-européennes.
Alors vous avez dit la plupart, ça veut dire que certaines langues ont d'autres origines.
Oui, le finnois, par exemple, la langue des Finlandais, est de racines finno-ougriennes, de même que le hongrois. D'autres langues plus minoritaires subsistent ici ou là dans des territoires relativement restreints que l'on appelle, le terme est très, très joli, des isolats linguistiques. Oh. L'exemple le plus près de chez nous est certainement celui du basque. Toutefois, à ces exceptions près, de Madrid à Moscou, de Londres à Athènes ou de Rome à Stockholm, les langues actuelles ont un tronc commun indo-européen qui s'est ensuite diversifié en plusieurs branches. Les langues hellénistiques d'origine grecque, romane, slave, germanique et celtique pour les plus importantes, j'y reviendrai. Notre français, qui est apparu tardivement vers le 9e siècle, est héritier principalement du latin, une langue romane, mais s'est aussi matiné de langues germaniques et de dialectes gaulois d'origine celtique. Rien n'est chimiquement pur en ce domaine. Cependant, il est indéniable que la souche originelle commune des langues dites romanes, italien, espagnol, français, portugais, roumain aussi, c'est le latin.
Alors, on va peut-être parler, pour commencer, de ce latin.
Tant que vous ne me demandez pas de parler latin, Sébastien.
Ça nous rappellerait de mauvais souvenirs d'école, donc passons.
D'ailleurs, où parle-t-on encore latin aujourd'hui? Presque plus dans les églises, où le latin a été pendant des siècles la langue liturgique commune du catholicisme. Le seul espace où il demeure, sinon parlé, au moins enseigné et étudié, c'est encore le lycée et, dans une moindre mesure, le collège, sans parler, bien sûr, de l'université. Le latin, que l'on qualifie de langue morte, du fait qu'il n'a plus d'usage naturel dans aucune population d'Europe, n'a pas disparu pour autant du champ intellectuel européen. Le terme « langue morte » est par ailleurs récusé par beaucoup qui lui préfèrent celui de « langue ancienne », puisque ancêtre des langues romanes auxquelles elle a donné l'alphabet que nous utilisons et qu'utilise la grande majorité des peuples européens, et même ceux d'Amérique, d'Afrique ou d'Océanie, tous marqués par la colonisation européenne. C'est d'ailleurs par un processus identique que, à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, la langue de Rome s'est diffusée dans l'ensemble de l'empire que celle-ci, Rome, avait constitué.
Ce qui veut dire que certains pays d'Europe n'écrivent pas comme nous.
Oui. Ce sont quelques pays de l'espace linguistique slave, la Russie essentiellement, et aussi la Bulgarie, qui est, elle, dans l'Union européenne. Ils ont adopté, à partir du 9e siècle, l'alphabet dit cyrillique, dérivé de l'alphabet grec. L'autre pays de l'Union européenne qui possède un alphabet différent, c'est bien sûr la Grèce, qui a conservé son alphabet ancien, bien que la langue grecque actuelle n'ait pas beaucoup plus de ressemblance avec celle de Platon ou de Démosthène que l'italien d'aujourd'hui n'en a avec le latin.
Et est-ce que le grec ancien est toujours enseigné ?
Oui, un peu moins toutefois que le latin, surtout en France, où leur enseignement a tous deux tendance à reculer. Les deux langues dites anciennes ont en effet des points communs, même si elles n'utilisent pas le même alphabet. Ce sont toutes deux des langues à déclinaison, et leur univers de référence, histoire, mythologie, etc., sont assez proches. Si bien que l'une et l'autre ont légué à nos langues actuelles un héritage considérable en matière de vocabulaire, les fameuses racines étymologiques. Ce qui pourrait être une raison suffisante de leur enseignement, mais pas unique. L'apprentissage des langues anciennes offre surtout un accès aux origines de la culture et de la démocratie européenne, ainsi qu'aux mécanismes complexes de l'expression de la pensée. D'autres disent que ça ne sert à rien, il n'y a même pas de mots pour désigner Internet en latin.
Alors, c'est pour dire. Bon, je sais que j'ai beaucoup de questions, mais comme vous avez toujours les réponses, j'en profite. Est-ce que les autres pays européens connaissent la même diminution de cet enseignement qu'en France ?
Or, si en France, ce sont 4% seulement des élèves de terminale qui pratiquent au moins une langue ancienne, le chiffre est à peu près de 20% en Italie, de 16% en Espagne, des pays de langue romane, c'est-à-dire issus directement du latin, et dans lesquels l'enseignement des langues s'accompagne souvent d'un enseignement de la culture dite classique. En Suisse, il atteint 17% et il se situe entre 12 et 17% en Belgique, deux pays par ailleurs multilingues. Partout, en tout cas, les méthodes mises en œuvre pour leur apprentissage se modernisent beaucoup. Pour montrer l'importance de sauvegarder l'enseignement de ces langues considérées comme, je cite, « les langues matricielles de l'Europe », une journée européenne des langues et cultures de l'Antiquité a été initiée en 2021 à l'initiative de plusieurs ministres européens.
Voilà pour ce petit retour dans le temps. Et après ces langues européennes anciennes, est-ce que les langues actuelles seront au programme de la chronique de la semaine prochaine ?
Une chronique qui sera intitulée « Les Européens et leurs langues » avec pas mal de statistiques.
Sorties les calculatrices donc. En attendant, Jean-Pierre, on va souhaiter une bonne semaine.
Eh bien, bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Gergé-Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.